Et comme convenu, nous sommes en direct avec le docteur Atman Lorabi, qui est psychiatre, psychothérapeute et secrétaire général de l'association marocaine de psychiatrie psychodynamique. Ensemble, on parle de la dépendance affective. Docteur Atman Lorabi, bonjour et merci d'être parmi nous aujourd'hui.
Bonjour Karima, merci pour l'invitation. Bonjour Salma, à tous les membres de l'équipe et bonjour à tous les auditeurs et auditrices.
Bonjour docteur. Alors docteur, avant d'aller peut-être plus loin dans notre échange et de rentrer un peu plus dans le détail, quand on parle de dépendance affective, ça veut dire quoi exactement ?
Alors c'est une notion qui est extrêmement vaste et qui est extrêmement floue. Alors c'est vrai qu'on en parle beaucoup dans les médias, un petit peu dans du côté de la psychologie positive, apprendre à reconnaître cela, etc. Mais en fait, d'abord, il faut convenir que c'est quelque chose qui va regrouper un ensemble de problématiques qui vont être vécues par plusieurs personnes qui présentent essentiellement des traits de troubles de la personnalité et qui va se caractériser, cette dépendance affective, par le fait que notre bien-être côté sentimental va être conditionné uniquement par des facteurs extérieurs. C'est un peu comme ça que je vais le définir. Alors, il faut s'attarder sur le mot de dépendance, parce que la dépendance, voilà, c'est le fait d'être effectivement conditionné par des choses, mais c'est aussi une perte de liberté. Quand on parle de dépendance affective, le plus souvent, on va mettre à côté le fait que la plupart des gens qui en souffrent adoptent des comportements où ils se sentent un peu obligés, un peu contraints, un peu contraints de subir, un peu contraints d'être dans la passivité, et toujours dans le but d'être rassurés quant à l'amour qu'on leur porte. C'est un petit peu la définition très large que je vous propose. Mmh. Et pourquoi est-ce que c'est très large et très flou ? Parce que c'est une notion en psychologie, d'abord, on ne parle pas d'une maladie, on ne parle pas d'un trouble au sens strict du terme. On peut retrouver cette dépendance affective dans le cadre de troubles de la personnalité, les personnalités, ce qu'on appelle les personnalités dépendantes, les personnalités évitantes, chez les personnalités borderline, etc. Mais en tout cas, ça dénote d'une modalité durable, différente des autres, de comment est-ce qu'on perçoit, comment est-ce qu'on vit la relation amoureuse principalement. C'est de ça qu'il s'agit quand on parle dépendance affective, mais pas que, parce que c'est aussi quelque chose qui peut se manifester dans les relations amicales. C'est pas exclusivement lié à l'amour. Et de telle sorte que on va retrouver des comportements de manière très très fréquente qui peuvent rendre compte de la présence de cette dépendance affective. Je vais en citer quelques-uns. C'est le fait de solliciter la présence permanente du partenaire. C'est le fait qu'il y ait aussi assez souvent une jalousie très présente. C'est le fait que assez souvent la personne qui est dans cette problématique de dépendance affective va avoir l'impression qu'elle vivre une relation amoureuse asymétrique, c'est-à-dire un peu unilatérale, où c'est elle qui aime plus que l'autre. La personne va aussi être sujette très souvent à des émotions assez intenses, qui peuvent même être contradictoires et ambivalentes. Ça va se manifester par un profond déficit de la confiance en soi, de l'estime de soi. Ça va se manifester par le besoin constant d'être rassuré par l'autre à travers soit des témoignages d'amour, soit des actions, la plupart du temps par des actions, le besoin d'attention continue de la part du partenaire, le besoin de preuves d'amour, encore une fois, continue et répétée. Donc, c'est vraiment quelque chose d'extrêmement contraignant qui induit une souffrance, donc bien évidemment chez la personne, mais aussi chez le partenaire. Et donc, ça va être une souffrance, une relation qui va être en souffrance, parce qu'il va y avoir, bien sûr, on peut imaginer, à partir du moment où notre bien-être repose entièrement sur notre partenaire, ça va être une pression immense aussi sur les épaules du partenaire, et ça va aboutir à des tensions et à des ruptures, hein, chose qui va réaliser encore plus dans notre tête cette prédiction de je ne suis pas assez bien pour la personne en face de moi, elle ne m'aime pas assez, je dois faire plus d'efforts pour qu'elle m'apprécie. Alors, quand on dit je dois faire plus d'efforts, le plus souvent, c'est dans un seul sens, c'est me négliger moi-même pour essayer de faire plaisir à l'autre, de plaire à l'autre, de faire les choses en fonction de ses choix, de ses envies, etc. Et moi, concernant ma personne dans cette relation, ben, je vais absolument tout négliger, tout reléguer au second plan. C'est un petit peu ça, la vignette clinique, qu'on a la plupart du temps quand on parle de dépendance affective.
Et les personnes qui, justement, ont cette dépendance affective, ça vient d'où dans leur enfance ou dans leur vie? Comment ça se manifeste?
Alors, bien souvent, les personnes qui ont cette problématique ont une histoire personnelle qui débute dès l'enfance, qui va être marquée par des événements traumatiques l'absence du fait d'être rassuré par principalement les parents, la maman, quant à l'amour qu'on porte. Quant à l'amour qu'on nous porte. Hein, donc, c'est des choses qui peuvent être extrêmement précoces hein, dans notre développement. Je pense notamment, hein, par exemple, quand il y a la naissance d'un prématuré, qui va passer plusieurs semaines ou plusieurs mois dans une couveuse, où il ne va pas être en interaction avec sa maman, où il ne va pas être dans cette optique d'attachement. Ça peut être aussi d'autres événements de vie qui vont faire que, pour une raison ou pour une autre, il y aura une séparation avec la mère. Encore une fois, très précoce, c'est des choses qui interviennent dans les premiers mois, les premières années de la vie. Ça peut aussi être un environnement parental peu valorisant, pas dans la reconnaissance de l'ego du petit enfant qui est en train de se construire, soit en termes, je le disais, d'attachement affectif, d'amour qu'on peut porter, mais ça peut aussi être par rapport à la reconnaissance de ses réussites, à la valorisation de ses réussites, ce genre de choses. Donc, pour ne pas... Alors, entendons-nous bien, toute personne qui souffre de dépendance affective n'a pas obligatoirement eu des problèmes avec sa maman, parce que c'est un petit peu réducteur et on pointe du doigt, mais ce sont des événements de vie où la personne va être confrontée à une insécurité au niveau de l'affection qu'on peut lui porter. C'est un peu ça, le point commun entre tous ces événements. Et c'est quelque chose qui va grandir avec l'enfant dans la mesure où ces différentes expériences dans le parcours de sa vie, dans le parcours de son développement, que ce soit avec ses camarades, les premiers amours, ce genre de choses, eh ben, c'est quelque chose qui va être, malheureusement, le plus souvent, peut consolider cette carence affective, la rendre encore plus forte, et petit à petit, donc, pousser la personne dans un fonctionnement de type dépendant affectif, qui, malheureusement, je tiens juste à le souligner, va mettre la personne au final exactement face à sa pire crainte, d'être rejetée, d'être abandonnée, etc. Mais justement, tout l'enjeu du travail psychologique, c'est d'arriver aussi à comprendre que ce qui se passe avec nos partenaires en termes de rejet et d'abandon, c'est le plus souvent en grande partie à cause de notre fonctionnement de dépendance affective qui, je le disais tout à l'heure, place énormément de stress chez le partenaire ou la partenaire.
Et docteur Atman Lourabi, est-ce que cette dépendance affective peut mener à d'autres complications?
Oui, moi j'ai envie de vous dire, on a tous besoin d'affection, on a tous besoin d'amour, on a tous besoin de se savoir lié à d'autres personnes, que ce soit en amour, en amitié. Et si vous voulez, le fait de corollaire de cette dépendance, c'est le fait de vivre une immense carence affective permanente, tout le temps. C'est un peu comme si on avait un trou qu'on essayait de reboucher tous les jours, mais sans jamais y arriver. Et si vous voulez, cette carence, cette détresse dans laquelle on peut être, va d'abord, dans la plupart des cas, nous amener vers des conduites addictives, parce qu'il s'agit, de se soulager presque quotidiennement de ces moments où on ressent ce vide affectif, ces carences, et ce sont des moments qu'on va vivre plusieurs fois pendant la journée. Et comme c'est sur une perspective, je dirais, au long cours, eh ben, forcément, à un certain moment, on risque de, je dirais, faire la rencontre d'un produit qui nous soulage quant à cette immense angoisse qui nous habite. Et là, justement, comme c'est quelque chose de chronique, on risque d'être dans la consommation répétée et donc dans l'addiction. Ça, c'est vraiment la chose la plus fréquente qu'on retrouve en termes de comorbidité. Après, bien évidemment, quand on se retrouve dans une relation, je dirais, où il y a des enjeux très importants à certains âges de notre vie, où il s'agit de fonder une famille, des choses comme ça, eh ben, ce stress permanent va être un facteur de fragilisation par rapport à la survenue de troubles anxieux, n'importe quel trouble anxieux, mais principalement et assez souvent, on trouve ce qu'on appelle le trouble anxiété sociale, qui est un petit peu en lien avec la dépendance affective dans la mesure où sa caractéristique principale, c'est la crainte excessive d'un jugement péjoratif, qui dit d'un jugement péjoratif de la part d'autrui, ce qui suggère le rejet, la mise à l'écart, etc. On peut retrouver des dépressions, et notamment quand on est face à une relation qui est en train de se déliter du fait de problèmes et que ça traîne et que c'est chronique. Et que, bon, on peut imaginer que cette détresse quotidienne va au final aboutir à l'installation d'une réelle dépression. C'est un peu ça. L'enjeu justement de ce mode de fonctionnement, la dépendance affective, parce que réellement on tombe dans la pathologie mentale assez fréquemment.
Et justement pour le conjoint et la conjointe de personnes qui souffrent de cette dépendance affective, quels conseils on pourrait leur donner pour essayer voilà, d'aider leur partenaire de vie à gérer ça?
J'ai envie de vous dire, le principe de sortir de la dépendance affective, c'est que justement, il faut aller petit à petit vers l'indépendance. Donc, le fait de compter sur le partenaire pour nous aider ou pour faire en sorte à ce qu'on se débarrasse de la dépendance affective, c'est presque contre-productif. Ça, c'est très important.
Antinomique.
Voilà, absolument, c'est absolument. En fait, si vous voulez, l'enjeu du traitement, c'est d'abord que la personne arrive à s'aimer. Le plus souvent, quand je parlais tout à l'heure de carence affective, de traumatisme durant l'enfance, de carence maternelle ou parentale, de manière générale, eh ben, ça aboutit au fait qu'on n'a pas une, on a vraiment un amour de soi qui est défaillant, une faille narcissique, un déficit de l'estime de soi, appelons-le comme on veut. Et c'est quelque chose qu'il va falloir s'attacher à reconstruire. C'est très important. Et c'est là le côté thérapeutique, c'est que ça va toujours passer par une psychothérapie. Qui peut être d'inspiration analytique, cognitivo-comportementale, interpersonnelle. Enfin, il y a beaucoup de psychothérapies qui peuvent aider les personnes. Mais si vous voulez, le mode opératoire est toujours le même. Il faut un petit peu se reconstruire à travers la reconstruction de notre histoire personnelle, la reconstruction, enfin, le fait de revoir un petit peu nos événements de vie, dénouer certaines tensions, arriver à donner du sens, un autre sens, autre que oui, je ne suis pas assez aimable, entre guillemets, ou je ne suis pas assez aimé. Et assez souvent, le fait de faire ce travail à l'âge adulte nous permet de rattraper des choses qui étaient, je dirais, qu'on percevait de manière assez logique et naturelle dans notre enfance et dans notre adolescence. Et ça, le fait de, le plus souvent, les personnes se retrouvent à en parler avec les membres de leur famille, avec leurs parents, etc. Bien sûr, entre au décours de la thérapie, entre les séances. Et ça, très très souvent, ça permet d'abord de rectifier certaines idées, certaines croyances. Et après, l'autre enjeu, c'est qu'il faut travailler sur le présent pour pouvoir s'autoriser à être soi-même davantage, progressivement, s'autoriser à exprimer nos émotions quand il le faut, s'autoriser à demander, s'autoriser à refuser. Mm-hmm. Parce que assez souvent, quand on est dans la dépendance affective, on n'est pas dans la décision propre. Mm-hmm. On attend que l'autre décide pour nous. On censure la plupart de nos émotions négatives parce qu'on a peur de que ça froisse l'autre, etc. Et à partir du moment où on est tout le temps censuré, ben au final, il me plaît à dire que souvent on ne sait pas ce qu'on vaut, on ne sait pas si on est aimable ou pas, on ne sait pas si on est une personne qu'on peut aimer facilement, etc. Et c'est ça tout l'enjeu, c'est de se réaffirmer et de réexister pour soi et de penser pour soi. Et assez souvent, enfin, pour ne pas dire presque toujours, les résultats et les conséquences sont positives, ce qui permet à la personne de continuer à aller de l'avant dans cette nouvelle dynamique.
Eh ben, merci beaucoup, Dr Hetman Lorabi, d'avoir répondu à toutes nos questions aujourd'hui. C'était encore une fois un plaisir de vous recevoir dans Matin Famille.
Tout le plaisir est pour moi.
Et on se donne rendez-vous jeudi prochain, Inch'Allah.
Avec plaisir, Inch'Allah.
À jeudi prochain, Inch'Allah.
Au revoir, au revoir.